on a assez peu de dates sur notre territoire. Robin Trower, il n'y a pas beaucoup d'endroits où aller le voir. Et puis Mike Brookfield, c'est peut-être le seul endroit où le voir cet automne en France.
Alors, on en profitera. Mike Brookfield Band et Robin Trower. On vient de l'entendre, il est 14h sur le 666. On poursuit deuxième heure de ce Sweet Home Chicago avec, on égrène, donc c'est toutes ces dates-là qui nous arrivent comme une espèce d'avalanche. Il y a énormément de choses. Je pense que, est-ce que tu connais des gens qui assistent vraiment à tous les concerts? Il y a des passionnés comme ça qui sont là chaque soir. On doit y avoir une petite poignée quand même.
Il y en a une poignée, de gens très fidèles qui... Presque ne regardent même pas la programmation, nous connaissent et disent bon bah moi je prends le pass, je viens tout voir.
C'est ça.
Parce qu'ils savent, ils nous font confiance, ils savent ce qu'on va leur proposer. J'exagère un tout petit peu en disant qu'ils regardent pas la programmation. Mais on a une poignée de gens qui vraiment nous suivent sur toutes les dates. Et là on a vraiment cette année un festival qui est très dense effectivement, puisque c'est tous les 2-3 jours qu'on a des concerts. Il va falloir avoir pas mal d'énergie pour tenir le choc et aller jusqu'au début du mois de décembre.
C'est clair.
Mais pour ceux qui en seront avec nous, ça va vraiment être une belle aventure.
Et pour ceux qui, comme d'autres, devront choisir, malheureusement, parce qu'on ne peut pas forcément faire tous les kilomètres, pour certains, on peut venir de loin pour aller jusqu'à la traverse, il y a des choses à pas rater. Je pense notamment au concert de Lucky Peterson. C'est un petit peu une histoire d'amour entre le festival et Lucky Peterson, non?
Ah oui, complètement, ouais.
C'est pas la première fois qu'il vient.
Le festival est complètement lié à la carrière de Lucky Peterson. Il a inauguré la salle en 1993. C'est le premier concert qui a eu lieu dans les murs de la Traverse, c'était le lancement du festival Blues de Traverse par un concert de Lucky Peterson. Donc ça nous a marqué durablement. Il était revenu pour les 10 ans de la salle,
ouais.
Marqué l'événement. Il est revenu, alors pas tout à fait pour les 20 ans, mais pour les 19 ans, il était revenu.
D'accord.
Et là, cette année, on propose la 25e édition du festival Blues de Traverse. Et il revient avec un exercice très particulier, puisque il sort ces jours-ci un album hommage à Jimmy Smith, qui était un de ses compagnons de musique, qu'il a croisé à de nombreuses reprises sur scène. Et donc là, il vient uniquement à l'orgamone interpréter le répertoire de Jimmy Smith.
Voilà, et il sera en solo ou sera accompagné d'un basse-batterie ou peut-être non?
Ah non, il sera accompagné avec lui, il y a un batteur, un guitariste et un trompettiste.
Voilà, pas besoin, j'allais dire, bassiste, bien sûr, pas besoin de basse quand on a un orgamone, la main gauche suffit largement. Et pas une seule note de guitare de la part de Lucky Peterson, on le précise ça.
Et pas une seule note de guitare. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il présente les choses. Et je trouve ça très sympa, cette idée de se dire on vient voir Lucky Peterson qu'on assimile à un grand guitariste et qui nous a fait vivre des super moments avec la guitare à la traverse. Et là, on vient le voir à l'orgamone, qui est son instrument de jeunesse. Hein. Il a commencé par jouer de l'orgue quand il était très jeune.
Tout à fait. À l'époque, il était produit. Il était produit par Willie Dixon. Je me souviens d'un 45 tours sorti à ses 5 ans, puisqu'il est né en décembre 64. En 69, il avait à peine 5 ans et c'est tonton Willie Dixon qui l'avait fait enregistrer, notamment un titre qui s'appelait 1, 2, 3, 4 chez Yumbo Records. Il va falloir que je ressorte ce petit 45 tours collector là pour qu'on se rende un petit peu compte. C'était un petit peu le Michael Jackson. Le Little Stevie Wonder de l'époque, Lucky Peterson, il a donc maintenant aligné près d'une cinquantaine d'années de carrière, hein, carrément.
Ouais, c'est incroyable. Ouais.
Alors en première partie, tu as mis les gagnants du tremplin de la traverse de l'an dernier, ce sont les Barn Guys. Hein.
Exactement, un groupe que tu connais bien puisqu'ils sont, ils sont canés.
Ah, oui.
Je trouvais ça assez symbolique que pour la 25e édition du festival, les lauréats du tremplin précédent viennent jouer en première partie de Lucky Peterson. Et en plus, c'est un groupe qui développe une énergie sur scène et qui va emmener dans un univers un peu différent de celui que Lucky Peterson présentera derrière. Et je trouve que du coup, ça va faire une soirée assez cohérente autour du blues jazz, de la soul. Ben voilà. On va être vraiment dans tous ces univers-là parce que les Barn Guys, il y a aussi une dimension très soul music dans ce qu'ils font, en tout cas dans ce qu'apporte le chanteur claviériste du groupe.
Et, Alexandre,
Alexandre, pardon, j'ai oublié son prénom. Et ça va faire vraiment un beau set, je pense, pour eux, parce qu'on va avoir un public qui, je l'espère, viendra nombreux pour voir Lucky Peterson. Et on sera fiers de présenter notre lauréat du dernier tremplin à cette occasion.
Voilà, les Barn Guys qui ont tout récemment fait le Zénith. Hein, tu sais qu'il y a la nuit du blues au Zénith de Caen.
Oui.
À Caen, c'était cette année. Et puis, un petit clin d'œil, le premier Zénith de l'association Backstage, c'était en 1994, comprenait Lucky Peterson sur scène. Voilà.
Et voilà, comme quoi il n'y a pas de hasard. Hein.
23 ans après, voilà. Lucky Peterson et les Barn Guys à la traverse, ce sera pour la soirée du samedi 25 novembre. On poursuit parce que dès le vendredi suivant, on ne chôme pas, il y a encore tout un week-end à passer ensemble à la traverse. Là, ça sera un univers un petit peu différent avec monsieur Charlie Couture qui vient de nous gratifier d'un superbe album intitulé Lafayette qu'il a enregistré en Louisiane. On en a écouté 2-3 extraits dans l'émission au moment de sa sortie. Charlie Couture, il était déjà venu à la traverse?
Jamais, non, jamais. C'est la première fois qu'il vient à Cléon et à la traverse. Et c'est. Moi, son dernier album m'a vraiment surpris très agréablement et m'a beaucoup, beaucoup plu. C'est un artiste dont j'appréciais déjà l'ensemble de la carrière et que je trouvais être un élément important du paysage musical français. Dans sa discographie et dans sa musique, je sentais déjà des liens avec le blues, ou en tout cas avec l'esprit du blues. Et là, avec cet album, le pont est lancé entre son univers à lui et le blues cajun de la Louisiane. Et ça va être, j'en suis sûr, un très 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 beau moment d'avoir Lucky Peterson sur notre scène. De Charlie Lee,
Charlie
Couture sur notre scène. Ouais.
Charlie Couture, avec cet album Lafayette, enregistré en Louisiane, hein, tout simplement. Et puis, une première partie étrangère, une fois n'est pas coutume, avec un artiste italien qu'on a pu découvrir chez nous, à côté de Caen, au BBC, c'est M. Francesco Piu.
C'est ça, un personnage un peu fou, assez étonnant, mais un musicien hors pair qui va embarquer tout le public avec lui, parce que il a un grain de folie dans son jeu et dans sa façon d'être sur scène, et on peut pas résister, quoi. C'est un super guitariste, c'est incroyable, quoi. C'est des artistes qui mériteraient de tourner beaucoup plus que ça en France. Enfin, je veux dire, c'est des grands artistes, des gens comme lui, et c'est vraiment un vrai plaisir de l'avoir pour ouvrir la soirée avant Charlie Lee.
Alors, Francesco Piu, guitariste extraordinaire, tu le signales également, un très très bon showman, hein, qui va donc ouvrir pour Charlie Couture. J'ai envie de dire une soirée un petit peu atypique, on ne s'attendait pas forcément à voir ces deux artistes-là, qu'on connaît indépendamment, se rencontrer. Je ne suis même pas sûr qu'ils se soient déjà rencontrés. Est-ce qu'ils ont entendu parler les uns des autres déjà? Est-ce que tu le sais, ça?
Charlie Couture, je ne sais pas s'il a entendu parler de Francesco Piu. Francesco Piu, lui, est ravi de venir jouer en première partie de Charlie Couture. Il le connaît, il le suit et il l'apprécie beaucoup.
Et puis ensuite, là, donc on est sur la soirée du vendredi 1er décembre, et ensuite, le samedi, c'est off, et le dimanche, ça redémarre dès l'après-midi avec, j'allais dire, le traditionnel tremplin. Il y a un tremplin qui se déroule dès 15h30 avec quelques groupes qui auront été sélectionnés parmi ceux qui se présentent, qui vous envoient à vous, l'équipe de La Traverse, leur candidature. Est-ce que tu connais déjà les noms des artistes qu'on verra le 3 décembre?
Non, alors les candidatures étaient ouvertes jusqu'à vendredi dernier, jusqu'à hier. Ouais. Donc les candidatures sont clôturées hier. On n'a pas encore réuni le jury de présélection. Il va se réunir, je pense, dans les 10 jours qui viennent pour choisir effectivement les 3 ou 4 groupes qui seront auditionnés sur scène le dimanche après-midi.
Il y a beaucoup de groupes qui ont candidaté cette année? Tu sais peut-être pas encore ça.
On m'a dit qu'il y avait 28 candidatures.
Ah, quand même, oui, d'accord.
On est uniquement sur la région Normandie.
C'est ça.
Pour le périmètre d'où nous viennent les candidatures. Alors, sur les 28, j'imagine qu'il y en a 2-3 qui sont hors sujet parce que dans des univers musicaux trop éloignés du nôtre. Ouais. Mais je pense que le reste, on va passer encore un bon moment à essayer de trouver les 4 propositions les plus intéressantes à proposer sur scène. Sachant qu'on n'attend pas que des groupes de blues. Hein, on peut très bien sélectionner des groupes d'univers parallèles, j'ai envie de dire, au blues, ou en tout cas...
Comme le rock, par exemple.
Voilà, le rock, la folk, le hard rock, enfin, toutes ces esthétiques-là ont leur place dans notre tremplin.
J'allais dire, ça, oui, comme chaque année ou presque, et l'année dernière, ça a franchement été le cas. Moi, j'avais trouvé que les univers de chacun des 4 groupes qui s'étaient présentés étaient radicalement différents, et c'était intéressant dans tous les cas, en fait.
C'est ça, exactement. On essaye de représenter à travers cette sélection de groupes pour le tremplin aussi un peu la diversité de ce qu'on peut nous programmer et aimer comme musique à la traverse.
Et souvent ce que tu proposes, ce que la traverse propose après le tremplin, c'est un artiste international en tournée. Et là, on aura une artiste française qui a déjà, je pense, une stature internationale. Il s'agit de la guitariste chanteuse Laura Cox, toute jeune encore, mais qui fait des choses que les gens de son âge ne se permettent pas encore de faire, j'ai envie de dire. Parce que là, Laura Cox, pour le coup, hein, pour les amateurs, par exemple, d'ACDC, je pense qu'ils vont être ravis de voir Laura Cox sur scène, non?
Ouais, ça doit être... C'est une belle surprise, ouais, pour terminer le festival et pour suivre le tremplin, effectivement, une musicienne comme elle qu'on n'a pas forcément vu venir, parce que ça fait assez peu de temps qu'elle est dans le paysage musical et elle s'est déjà fait... un public très nombreux, elle a d'abord existé sur YouTube avant d'exister sur scène. Enfin, elle est vraiment dans sa génération. Hein.
Ouais.
Parce que c'est une gamine, elle a moins de 30 ans, je crois, Laura.
Ah, elle doit avoir 22, je crois. Enfin,
c'est ça.
On dit pas l'âge des dames, il paraît.
Pas loin de 25, je pense. Mais bon, je sais pas exactement. Hein, mais en tout cas, elle est encore très jeune et elle a les codes de sa génération, ce qui fait qu'elle a... Elle a démarré en faisant des vidéos sur YouTube et elle s'est fait connaître comme ça d'un public nombreux. Et elle envoie un rock énergique, un peu old school, mais tellement bien fait et tellement à la fois simple et bien exécuté. Donc on est dans le plaisir à l'état pur pour les rockers et pour les amateurs, comme tu disais, de musique un peu, un peu énergique.
Pour résumer, c'est un peu réducteur à CDC, mais bon, elle fait pas des covers d'ACDC, soyons bien d'accord. Elle a un répertoire propre et elle enregistre chez V-Records quand même. C'est le label de Paul Personne, c'est le label de Manu Lanvin, c'est pas n'importe qui, Laura Cox maintenant. Hein.
Déjà ah ben c'est pas n'importe qui. Non, elle s'est fait en très peu de temps. Elle s'est déjà fait un nom sur la scène blues nationale, voire internationale.
On va résumer et puis reparler des chapitres précédents, parce que la programmation, on l'a dit, il est très dense. On va en quelques secondes revenir sur le vendredi 20 octobre, Before the Wall. Ensuite, on aura la possibilité de voir Johnny Lang et Flo Bauer mardi 7 novembre. Le jeudi 9, ce sera Chris Lade of AC/DC et Sticky Boys. Le dimanche 12 novembre, le New Blues Generation Tour avec Hypnotic Wheels en première partie. Ensuite, ce seront les comparses du Chicago Blues Festival, 48e du nom, avec Arnaud Fradin et son Rhythm and Combo en première partie pour le vendredi 17 novembre. Le dimanche 19, on va avoir une programmation soul et très féminine avec Rommel to Jungle, Martha Raine and the Groovelets, Robin Trower et Mike Brookfield dans le passage de génération le jeudi 23 novembre. Les Barn Guys en première partie de Lucky Peterson samedi 25 novembre. Francesco Piu en première partie de Charlie Lee Couture vendredi 1er décembre. Et ensuite, le dimanche 3 décembre, Laura Cox qui clôturera ce festival après le 15e tremplin. Des choses à ajouter, Paul, peut-être signaler aux gens qui peuvent...
En deux mots, préciser que cette année, le festival Blues de Traverse, c'est aussi une expo photo dans le hall avec les 30 ans de photos de scène de Jeff Lesen, qui est un super photographe qui suit la scène rock depuis des années. C'est aussi des concerts à la maison, puisqu'il y aura un concert chez un habitant de Flo Bauer, chez un habitant de Cléon, des concerts dans les écoles de la ville de Cléon, des concerts off aussi avec la Garo Musique à Louviers qui nous programme une soirée Around the Blues live avec trois groupes régionaux, une programmation à la médiathèque de Tourville-la-Rivière, à la salle Toreton à Saint-Pierre-les-Elbeufs. Donc toute l'agglomération autour de Cléon bouge au son du blues pendant le mois de novembre autour de notre festival et ça va être un très beau moment à partager. On a aussi une date pour le jeune public, pour que les gamins découvrent le blues, avec Manu Paris qui présente un spectacle qui s'appelle Herman Loup Noir, qui est un conte musical sur l'histoire d'un vieux bluesman qui erre le long des routes dans le sud des États-Unis et qui compare la figure du vieux bluesman à la figure du loup esselé et du loup solitaire.
Très bien, dis donc, tout ça c'est fort complet, ça se déroule du 20 octobre au 3 décembre, c'est à la traverse à côté de Rouen, à Cléon, exactement, et puis ça dure depuis un petit peu plus de 20 ans, je pense que tous les amateurs de toutes ces musiques-là connaissent et sont déjà venus forcément dans la salle. Je rappelle le partenariat que la traverse établit depuis plusieurs années avec Sweet Home Chicago. Il y a des places de concert à gagner pour absolument toutes ces dates par trois exemplaires. Alors c'est pas trois personnes personnes du même coup de fil. Hein, c'est, et voilà, vous êtes trois personnes différentes à gagner chacun une place. Les places sont sur le site internet de l'émission, blues.radio666.com. Mais là, on va donner la possibilité à l'un d'entre vous d'appeler. Juste après cette interview, Paul, on est en direct, vous appellerez au 02 31 94 66 66 si vous le souhaitez gagner la place de votre choix pour assister à l'un des concerts à la Traverse. Paul Moulin, Paul, merci beaucoup d'être intervenu dans ce 1020e Sweet Home Chicago.
Mais merci à toi, Marc, de m'avoir ouvert le micro pendant un peu plus longtemps que ce qui était prévu.
C'est mais, vrai, mais c'est pas grave, au contraire.
J'espère que ça aura intéressé et donné envie à tes auditeurs, à vos auditeurs, de venir découvrir ou redécouvrir la belle salle qu'est la Traverse.
Tout à fait, c'était le but. Merci, Paul, on se revoit très bientôt chez toi, hein, forcément.
À très bientôt, tu viens quand tu veux.
Merci, Paul. Au revoir.
Bonne journée. Salut.
Australian Way, si c'est pas une référence à AC/DC, je ne m'y connais pas. C'était Laura Cox, le Laura Cox Band. Encore merci à Paul Moulin pour cette belle interview qui a pu dérouler, en fait, c'est vrai, tous les artistes, y compris les artistes de première partie qui se produiront à la belle salle de la Traverse à Cléon du 20 octobre au 3 décembre prochain. Et puis vous avez bien sûr noté que vous pouvez appeler dès maintenant 02 31 94 66 66. S'il y a une date parmi toutes celles-là qui vous a plu, eh bien vous m'appelez. Le premier qui m'appelle aura sa petite place gratos pour aller assister à ce concert. Et puis je rappelle que les autres places de concert sont à gagner sur le site internet de l'émission blues.radio666.com. Juste après un passage vers le disque du mois, monsieur Nico Wayne Toussaint plays James Cotton. On aura l'occasion d'écouter le tout nouvel album de Lux qui s'appelle Super 8. Et ensuite, on aura la chanteuse et le guitariste, à savoir Angela Randall et Sylvain Laforge au téléphone. Voilà, c'est Sweet Home Chicago. I was born in Missouri.
a good man.
Fantastique album que celui de Nico Wayne Toussaint Plays James Cotton. Il est sorti, ça y est, enfin, cette semaine. L'album est sorti chez Dixie Frog Borderline Blues. Nico Wayne Toussaint, qu'on avait au téléphone il y a 15 jours en interview, nous présentait ce disque en hommage à James Cotton, qui est l'une de ses influences, que ce soit à l'harmonica et au chant d'ailleurs. Il avait enregistré un live avec les musiciens de James Cotton en 2004, le Transatlantic Live, vous vous en souvenez peut-être. Et ben là, tout de suite, sachez qu'on va y revenir sur ce disque-là, bien sûr, avant la fin de l'émission. On est ensemble jusqu'à 16h. Sachez également que la place, ça y est, a été gagnée. Marie-Claire, c'est bon, tu as une place pour aller voir les Barn Guys et le Lucky Peterson. Je pense que tu as bon goût d'aller, d'avoir choisi cette date-là, forcément. Et puis, je rappelle que tous ceux qui souhaitent assister en invité à l'un des concerts à la Traverse, vous pouvez aller sur le site internet de l'émission, page cadeau. Il y a plein de choses à gagner. Il y a encore le tout nouveau Blues Magazine également, le tout nouveau Soul Bag. Il y a toujours l'album de Francesco P. Dont on parlait à l'instant avec Paul Moulin. Et puis, ben voilà, il y a toujours, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, la page cadeau de Sweet Home Chicago. blues.radio666.com. Juste après le titre qui arrive, c'est un extrait d'album Super 8 de Luxe. On aura au téléphone la chanteuse et guitariste, à savoir Angela Randall et Sylvain Laforge, pour nous expliquer tout et le reste sur la sortie de ce disque qui s'appelle Super 8. Et pourquoi Super 8 d'abord ? c'est le groupe Lux avec deux de ses membres ici, leader, chanteur, guitariste. Je veux parler de Angela Randau et Sylvain Laforge. Angela, Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Ça marche, salut Marc.
Ça marche super bien. De ce côté-ci, en tout cas, ça passe bien. Est-ce que vous m'entendez ?
Un tout petit peu haché en fait, un comme si tu étais un tout petit peu loin.
Ah, alors c'est vrai qu'il y a peut-être 250 km. Vous êtes sur Paris, c'est ça hein ?
Ouais.
Alors, le groupe Lux, dont on entend parler depuis plusieurs mois, même plusieurs années, en fait, il est né autour d'une rencontre entre vous deux au départ. C'est vrai que c'était un duo. Ça continue d'être un duo d'ailleurs, parfois, ou c'est toujours avec la formation Quartet.
Attends deux secondes, Marc. On va essayer un truc technique parce qu'on ne t'entend pas. Tu peux répéter la question ?
Alors, la question, c'est tout simple. Est-ce que Lux est toujours un quartet avec, comme on l'entend sur le disque, quatre musiciens, basse, batterie derrière, ou est-ce qu'il y a toujours cette formule duo qui existe ?
Désolé Marc, ça coupe vraiment, on entend, c'est le mode voyelle en fait.
Ah alors s'il n'y a que les voyelles, effectivement ça va être compliqué. Je ne sais pas ce que je peux faire de mon côté, ça passait bien tout à l'heure. Est-ce que si j'appuie sur ce bouton-là, ça passe mieux ? Je ne sais pas. En tout cas voilà, ou alors ce qu'on peut faire
Non, bah alors, toujours pas.
Je vais raccrocher, on va mettre un autre titre et puis... Et puis on va essayer de se parler de façon un petit peu plus compréhensible. Je raccroche, je vous rappelle, d'accord ? On essaye ça en tout cas. Voilà, deuxième essai, ouais. Alors là, on est à l'antenne, ouais. Moi, je vous entends très bien.
Marc ?
Ouais, on vous entend très très bien.
Je suis navré, mais ça marchait, maintenant t'es disparu.
Et là, ça marche toujours pas ?
Là, on t'entend.
Bon, bah alors, je sais pas. On en est revenu peut-être à la préhistoire du matériel de Radio 666. Je comprends pas. Peut-être en coupant tout simplement le haut-parleur de votre côté.
T'es coupé maintenant, mais en fait, ça n'a pas un incident, mais...
Voilà, moi j'entends parfaitement, mais...
Bon, c'est bien.
Okay.
Ça va aller ?
Ouais, on va mettre le téléphone entre nos deux têtes.
D'accord, on va y arriver, il n'y a pas de problème.
Le groupe Lux
au téléphone, Angela et Sylvain, qui se produisent en quartet sur ce disque, je disais, la première question c'était, est-ce que la formation existe toujours en duo, selon les occasions, selon les concerts ?
Ouais, complètement. En fait, on a commencé comme ça, donc juste avec ma guitare sèche et nos deux voix avec Angela. Et effectivement, on continue à jouer dans cette formation quand on peut aussi, parce que, comme tu sais, quand tu fais de la musique, l'idée c'est de tourner le plus possible. Et souvent, oui. c'est plus simple de tourner à deux, on est plus mobile. Et puis, financièrement aussi, c'est un atout hein, de pouvoir tourner qu'à deux.
Bien
c'est
sûr.
C'est vrai que ça nous donne une flexibilité par rapport à ce qu'on peut proposer selon les lieux, selon le contexte qu'on a joué. Par exemple, quand on joue à New York dans les plus petits endroits, c'est plus facile de le faire juste à deux. Et puis le Lux, d'une manière générale, c'est pas un groupe dans le sens... on n'est pas comme The Foo Fighters, on ne compose pas en groupe. C'est Sylvain et moi qui sommes... le groupe en soi.
Oui, avec parfois, on peut le dire...
Exactement, accompagné par d'autres musiciens, notamment Julien Boisseau à la basse, et sur le EP et sur cet album, Franck Ballier à la batterie.
Franck Ballier à la batterie, Julien Boisseau à la basse, qui ont peut-être participé un petit peu aussi à la création de l'album, ou est-ce que c'est vraiment tout le matériel qui a été apporté par le couple Angela et Sylvain ?
En fait, tout était déjà écrit, même si forcément chacun apporte sa façon de jouer, son son et ses influences, mais c'est, si tu veux, tout était déjà maquetté, écrit,
structuré. Je crois que d'ailleurs, c'est une particularité et aussi un élément intéressant. Sylvain a écrit non seulement les parties de guitare, il a déjà une notion de ce qu'il veut rythmiquement, il écrit les lignes de basse parce qu'il joue la basse, mais ensuite... De même manière qu'il a créé la musique, et c'est moi qui va mettre les mots dessus. Julien va jouer la basse à la fois sur les lignes qui ont été créées par Sylvain, mais il est assez inimitable aussi à sa manière, Julien. Donc ça donne quand ça se passe bien, et ça se passe toujours ouais. bien avec Julien,
oui.
Ça donne vraiment un truc, un plus. Parce que, notamment comme bassiste, il est vraiment très fiable. C'est vraiment le métronome. C'est vraiment le métronome. Ouais. En fait.
Alors, voilà, une collaboration issue tout d'abord du couple Sylvain-Angela, et puis ensuite, bien sûr, la petite touche avec les musiciens additionnels que sont Franck et Julien. Et ça donne ce rendu assez particulier avec un son. J'ai pas tellement envie de mettre un nom de style sur ce que vous faites. D'abord parce que j'y arrive pas, hein, on va être tout à fait honnête. Et puis pourquoi faire ?
On t'a un peu perdu là, mais en fait tu...
Ça, par rapport au son ?
Non, par rapport au style, voilà. Je disais que j'avais pas envie de le qualifier.
Moi je viens d'un autre endroit, un autre planète, et, et pour nous, it's just rock, baby.
Ouais, c'est ça.
It's just rock.
Eh oui, parce que, Angela, on va rappeler, tu es new-yorkaise, c'est ça ?
Oui, hein, je suis new-yorkaise, américaine, moitié anglaise aussi.
Et comment est-ce que vous êtes rencontrée avec Sylvain ?
C'était complètement par hasard. J'étais à Paris. Je l'avais entendu une fois jouer aussi par hasard dans un magasin de guitare. Il testait une guitare, un ampli, je sais pas quoi. Et ça m'avait déjà marqué. Mais il m'a pas dit bonjour. Donc, c'était assez longtemps après. L'été 2009, j'étais invitée par la même personne qui avait la boutique à un pique-nique où lui, il était invité aussi. Et là, il était légèrement plus
gentil,
voilà,
plus loquace aussi peut-être.
Et voilà, il parlait un peu plus, et c'était là où, à un moment donné, j'avais déjà le début d'un projet à partir de 2008, mmh. et j'avais déjà commencé, au moment où j'ai re-rencontré Sylvain, j'avais déjà accumulé une certaine quantité de textes. Et si j'avais pas eu ces textes, je pense que il ne serait jamais venu prendre le thé et voir les textes que j'avais écrits, à vrai dire.
C'est pas faux. C'est ce qui m'avait un peu attiré au début d'aller voir Angela, c'est que comme j'avais pas mal de musique qui traînait, il me fallait des paroles. Et Angela, elle en avait plein, et en anglais, et plutôt bien écrit, donc ça a commencé comme ça.
Ça raconte quoi les paroles ? Ça raconte quoi les chansons de Angela ? Sylvain, c'est à toi que ça s'adresse, cette question.
Marc, je sais que tu as dit parole, mais en fait, c'était un petit peu...
Ça raconte quoi ?
Tu veux savoir de quoi ça parle ?
Ouais, mais c'est la réponse de Sylvain, d'abord, qui m'intéresse. Je voulais savoir ce qu'en pensait Sylvain.
Les paroles, bah, ouais. En fait, ça parle de détails de la vie, ça parle de certaines expériences d'Angela. Et ce qui est surtout très important pour moi, c'est que ça correspond à la musique que je fais, en fait. C'est que chaque thème abordé, et pour moi, ça match parfaitement avec ce que la musique que je lui propose. Donc ça, c'est super.
Il y a une des chansons qui est dédiée à la radio, j'ai l'impression. Ça s'appelle « While Waiting ».
Oh yeah, « While Waiting ». Well, ça, c'est self-explanatory, non ?
Ça s'explique tout seul.
C'est pour regarder les paroles, et ça s'explique tout seul. C'est « While Waiting », c'est exactement... chaque couplet part de ce qu'ils ont fait en attendant. Parce qu'on est tous, quelque part, surtout quand on fait de la musique, on est toujours en attente de quelque chose pour passer d'une étape à une autre. Donc c'est une chanson assez joyeuse et assez... c'est une chanson pour s'encourager et de prendre le plaisir dans le moment aussi, while waiting, listening to the radio, en écoutant la radio.
Et la radio 666,
surtout radio 666.
Oui.
And, et le refrain, you know, ride on, baby ride, c'est plutôt une manière de s'encourager. Il faut juste tracer sa route.
On va écouter un petit extrait de ce titre-là. Okay. Moi, il m'a intrigué, que ce soit au niveau des paroles et puis au niveau de la musique, je le trouve particulièrement entraînant. Ça m'a rappelé un petit peu les Pretenders avec Chrissie Hynde. Je sais pas
c'est
si j'ai.
C'est,
c'est un groupe que vous continuez d'écouter au hasard comme ça parmi. Ouais.
Moi j'ai très peu.
Moi, en étant de New York, tu sais, c'est très différent pour moi parce que The Beatles, The Pretenders, The Who, everybody. You know, on les connaît parce qu'ils sont toujours là. Ils ont toujours été là.
Ouais.
J'ai pas besoin. C'est facile d'être feignant. Parce que mon enfance, mais pas que mon enfance, c'est comme ça. Toi, tu étais à New York récemment. Cette musique, la musique qui rapproche le plus de ce qu'on fait dans l'Ox, c'est la musique qui nous entoure quand on est aux États-Unis, en Angleterre.
D'accord. Alors, on écoute quelques secondes de ça, parce que bah, je trouve ça intéressant. On va en parler juste après. Avec ce solo de guitare qui décape là, moi je trouve ça assez old school, vachement intéressant. Hein. C'est voilà, en acoustique c'est super. Et puis quand tu passes en électrique, tout de suite il y a une espèce d'autre dimension, Sylvain. Qui sont tes inspirateurs? Qui sont tes guitaristes de chevet encore maintenant en 2017?
Ah, c'est une vaste question, mais oui. En fait, pour moi la guitare, tout a commencé. Avec ACDC.
Ouais.
ACDC. C'est vraiment le truc qui m'a donné envie de jouer de la guitare électrique et de faire des chansons et de faire. J'avais. En fait, ouais, c'était le déclencheur, ça. Et puis après, bah, comme tout le monde, je suis remonté un peu à la base. Donc tu remontes un peu le temps au fur et à mesure. Donc ACDC, c'était les années 70, mais ils étaient inspirés par des mecs des années 60, 50. Puis les mecs des années 50 étaient inspirés par des mecs des années 30, et ainsi de suite. Donc en fait, tu reviens vite au blues. Hein.
Tout à fait.
En quelques décennies, t'es déjà dans le blues.
On écoute ça, parce que moi, ça me transcende, ce genre de truc. Voilà, moi je trouve que c'est exactement le genre de titre qui convient quand on est sur la route, en tournée, qu'il est 2h du matin, ouais. Que le concert vient de se terminer, qu'il faut faire 160 km avant le prochain hôtel. Voilà, ça fonctionne, quoi. C'est magique, ce genre de titre.
On l'aime bien.
Ouais.
C'est pas le préféré, si, presque.
Oh non, tu sais, Marc, on a 10 titres et on les aime tous.
Le titre album.
C'est très démocratique sur un album.
Le titre album s'appelle Super 8. Pourquoi Super 8?
Super 8, parce que de tous les autres qu'on a trouvés, c'était le mieux. Non, Super 8, c'est parce que je pense que toi qui as eu le CD en main,
oui.
Donc tu vois la pochette et l'image qu'on a utilisée pour emballer le CD, ce serait pareil d'ailleurs sur le vinyle. Je crois que quand on regarde la musique qu'on fait dans l'Ox, qui est extrêmement liée à tout ce qui est analogue, acoustique, guitare, c'est dans la linéaire tradition anglo-saxonne du rock and roll depuis toujours en fait.
Mm-hmm.
Je pense qu'il y a un élément visuel, en tout cas pour moi, et souvent c'est le cas d'ailleurs quand j'écris, et le grain dans un film Super 8, ou Super 8, d'ailleurs, convient vraiment très bien à le type de musique qu'on fait. C'est la même notion d'avoir quelque chose qui n'est pas trop lisse.
D'accord, ouais, je vois, d'accord. En fait,
c'est une autre vision de la beauté de la réalité, une autre manière de transposer la réalité. Il y a une autre chanson sur le CD qui s'appelle Rough Translation. Et c'était le nom que j'avais donné à mon projet tout au début. Parce que j'aimais bien Rough Translation, ça veut dire un type de traduction approximative ou une rapide traduction. Et c'est un peu ça l'existence, quoi. C'est on essaie de faire bien, on essaie de faire, mais on est souvent, sauf à un moment, loin de la perfection et c'est pas grave. Donc il y a quelque chose qui est dans l'existence même, dans le visuel même de Super 8. Les films,
oui.
Qui est très proche pour moi dans l'écriture et dans la musique qu'on fait.
Je pensais que tu allais me dire, en fait, c'est avec cet appareil-là que mon père me prenait quand j'étais sur la plage dans les années 80.
Non, c'est marrant parce que c'est tout le contraire. Le chanson Super 8 est sortie d'une idée. Dans mes souvenirs, c'était la musique d'abord, les paroles d'abord.
Je crois que la musique d'abord.
Sylvain m'avait donné d'abord pour Super 8. Et moi, je voulais parler d'une chose un peu paradoxale, en fait. dans le clip, si les gens ont vu le clip, c'est un peu le home movie, le film de famille rêvé,
oui.
Idéal.
Oui, oui.
Et d'ailleurs,
oui.
Quand on l'a filmé, c'était vraiment idéal. Tout le monde était super sympa, les enfants adorables, le chien. Tout le monde était bien, qui est vraiment souvent éloigné de la réalité. Et quand j'ai écrit la chanson, en fait, ça part de mon enfance à New York. Et quand on partait en voiture pour aller à la plage ou aller à la campagne, et j'étais sur le banquette arrière, j'étais une petite fille qui aimait bien rêver. Pour les besoins de la chanson, j'ai amené Sylvain avec moi. Les enfants jouent nos plus jeunes.
Oui.
Et justement, si tu regardes les paroles, ça parle du fait que quand je regardais les films de famille et quand je regardais les photos, j'y n'y étais pas. Je suis bien plus jeune que mes frères et sœurs et c'est presque comme si au moment de mon arrivée, on avait perdu un peu l'énergie pour faire tout ça. Donc la chanson parle de différentes choses, mais c'est ce voyage en voiture et qui parle aussi du fait que je suis notamment absent. Mais mon enfance était très présente pour moi, mais sur film et sur ces films Super 8 que je regardais, je ne suis que très très rarement.
D'accord.
Donc c'était un moyen de faire exister. Et l'idée du clip, je l'avais déjà. Le clip s'est écrit évidemment avec l'œil absolument incroyable de Jason Bach, qui est le photographe avec qui on a travaillé à multiples reprises. Lui, il a tout de suite compris. Et donc la chanson et lui, ça se suit en fait, visuellement.
Oui, oui, oui.
Et d'ailleurs, la pochette de l'album est faite d'une photo prise par Jason Bach, couplée avec une photo, une pellicule d'un film Super 8,
oui.
Retravaillée par un autre artiste qui est aussi un autre satellite de Lux, qui s'appelle Robin Cracknell, un photographe anglais qui travaille notamment en collage et photo et qui travaille beaucoup avec les film stills.
Ça donne
c'est
un côté.
C'est ça que j'ai voulu mettre ensemble.
D'accord.
Nous,
d'accord.
Avec cette texture, cette impression. Je sais pas, je trouve que la vie en acheté, c'est parfois un peu moins sympa. Le plus que la vie devient achetée, le plus que ça devient dur.
Ça donne un côté cinématographique à l'album. Je trouve que ça lui confère une certaine dimension. Au départ, tu disais en joke que Super 8, c'était le titre qui convenait le moins mal par rapport aux 10 morceaux. Je pense pas que ça aurait pu être un autre titre, finalement.
Non, je crois que Super 8, c'est vraiment pour ces raisons-là. C'est pour les textures, c'est pour le look, c'est pour le... On n'est pas très nostalgique, mais évidemment, je pense que c'est impossible d'écrire sans s'appuyer sur ses propres expériences. Mmh.
Qui sont Enola et Tom? Ce sont des enfants qui ont été prêtés pour le film.
C'était parfait parce qu'on a emprunté toute une famille. c'est très bonnes amies à nous, Émilie et Jean-Mathieu. Et ils avaient, c'était parfait parce qu'ils avaient fait deux enfants,
oui.
Filles, garçons, plus ils avaient le chien. Et donc on a demandé si on pouvait emprunter tout le monde pour le film.
Et vous avez tourné tout ça à New York.
À New York, il y a un bout caché quelque part, pas loin de Paris.
Oui, 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 effectivement. Je ne l'ai pas revu cette semaine, mais j'avais découvert ça. Dis-moi, Angela, je te pose une question peut-être un peu personnelle. On parlait de ton enfance, on parlait des films Super 8. Si je te dis Coney Island, qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
Coney Island, j'ai jamais été à Coney Island.
C'est pas vrai.
Sans doute quand j'étais toute petite. Dans Super 8, en fait, j'allais souvent, on allait parfois à Jones Beach, on allait dans les Hamptons,
ouais.
Pour aller à la plage. Coney Island, j'ai dû faire avec... ma mère est brésilienne, donc j'ai dû faire... La famille brésilienne venait souvent nous voir à New York, donc c'est là où tu fais le plus de tourisme.
Oui, quand.
Et sinon, Jones Beach, et puis souvent aussi aux courses, parce que mon père était un passionné des courses de chevaux, donc c'est là où beaucoup de temps passé dans le banquette arrière de la voiture.
Est-ce que New York a changé depuis le temps que tu es parti de New York? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Je parle musicalement parlant, pas forcément socialement ou politiquement, mais est-ce que la scène musicale new-yorkaise est toujours aussi active?
Tu sais, Marc, ce qui est une chose que les gens ne pensent pas ou ne savent pas, c'est que je n'ai pas fait de la musique avant de commencer mon projet en 2008 et je n'ai pas vraiment fait la musique que je voulais faire avant d'encontrer Sylvain.
Mmh.
Donc, mon expérience à New York, je peux te parler de New York, mais je ne peux pas vraiment parler avec beaucoup d'intelligence de la scène musicale à New York, mis à part le fait que les choses que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'il a toujours eu un mouvement musical très important, ça s'est déplacé vers Brooklyn. C'est la musique et l'art contemporain est très lié, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas énormément de moyens, j'ai trouvé la place, que ce soit la place pour jouer ou la place pour peindre.
Right.
Et donc c'est pour ça que maintenant, avant c'était le village, ou the East Village, ou downtown, parce que c'était les lieux qui étaient moins chers.
C'est ce que j'allais te dire, le village qui continue à proposer un certain nombre d'offres artistiques. Le quartier de la High Line aussi, qui est en plein essor.
Absolument, mais ça c'est... Je dirais que de toute façon, New York, comme New York, wow, c'est d'être. Je ne peux pas dire que je suis américaine, mais je suis surtout new-yorkaise. Donc, il y a une vie culturelle qui est extrêmement riche à New York, mais jusqu'à il y a quoi, 15 ans, ce n'était pas vraiment Brooklyn où on allait écouter la musique. Hein.
Et Brooklyn, j'ai l'impression que voilà, c'est le quartier qui monte, un petit peu comme Harlem, qui semblait très, très ghettoisé il y a encore 15 ans et qui, en fait, est devenu très touristique.
Hein. Oui, mais même différents types de musique dans différents quartiers, quoi. À Harlem, je ne suis pas sûre, on trouve beaucoup de rock indé.
Non,
il y a des endroits qui sont connus
non,
pour les blues, qui sont sans doute toi tu connais mieux.
Bleecker Street.
Et il y a aussi
Bleecker Street,
qui continuent
avec Terra Blues notamment, ouais.
Ouais.
Terra Blues, tu t'es déjà produit là-bas, Vera, Angela?
Non.
c'est un endroit que tu aimerais.
Et tu sais, le blues et moi, on n'arrête pas de me dire que je fais pas de blues, mais je sais pas. Moi, je trouve que dans la.
Moi, je trouve que tu flirtes avec le blues, Angela.
Mais je flirte. On peut dire ça en français,
ouais.
Je pense.
Ouais.
Ok, d'accord.
Avec
je peux dire. Parce que pour moi, c'est encore une fois, c'est la possibilité d'être très feignant et absorber beaucoup de choses. Uniquement parce que tu es dans un certain contexte. Donc, à New York ou aux États-Unis en général, tu peux pas ne pas connaître le blues.
C'est clair.
Fait partie, c'est une partie super importante de
l'identité
culturelle.
C'est subliminal.
Américain, en tout cas pour une certaine partie. Donc, moi, je ne comprends pas le. D'ailleurs, je me suis fait engueuler parce que j'avais posté le clip sur une des groupes sur Facebook dédié au blues.
Ah,
on m'a dit très sévèrement que ce n'était absolument pas du blues. Alors, moi, je trouve ce qui est vraiment intéressant, et c'est justement la force du blues. C'est pas de faire doum doum doum, my baby left me again. Parce que si tu veux vraiment faire une chanson blues, il y a des codes extrêmement stricts. Moi, ce que je trouve intéressant du blues, c'est ce que les Beatles ont fait avec le blues, c'est ce que les Rolling Stones ont fait avec le blues, c'est ce que les gens continuent à trouver une source d'inspiration.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans le blues,
c'est ça que je trouve intéressant.
C'est ça. Et tout ce qui est intéressant dans le blues aussi, c'est pas seulement ce que le blues dit, c'est ce que le blues ne dit pas. Hein. Enfin, c'est tout ce qui est en filigrane. Et je pense que le blues, c'est une des musiques qui arrive le mieux à absorber toutes les autres, tout en les instillant. C'est-à-dire que le blues a donné naissance au jazz, le blues a donné naissance au rock and roll avec l'aide des hillbillies, etc. Et puis en même temps, le blues continue de se nourrir de ses filles. Le blues actuel continue de puiser dans la musique actuelle également pour s'enrichir, pour continuer d'évoluer. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il faille de toute façon donner une étiquette à ce que vous faites en tant que luxe. Moi, je dirais voilà, un groupe franco-américain qui puise dans les racines et qui va de l'avant, quoi.
Je trouve que la fascination avec le blues vient de le fait qu'il y a une pureté dans le blues et une sincérité dans le blues et un côté acoustique très simple et très, c'est direct du source.
Ouais.
C'est pas trafiqué. Si on regarde le vrai, ce que moi j'appelle le vrai blues. Tu regardes vraiment les racines des blues.
Une musique qui ne triche pas. Un petit peu à l'image de la vôtre, c'est vrai que moi j'imagine très très bien aller écouter votre musique dans un club de blues, tout en l'écoutant également sur des radios à forte audience. Je pense que ça peut passer vraiment même dans le grand public.
En tout cas, tu dis plein de choses sympathiques sur notre musique qui nous fait très plaisir, donc il faut peut-être qu'on dit merci aussi.
Non, c'est pas pour ça.
Pour moi, ce qui est plus important, en tout cas, quand tu fais de la musique ou quand j'écris des chansons, c'est que tu essaies de prendre quelque chose qui est, et je l'ai déjà dit, donc je redote, mais tu prends quelque chose qui est personnel et tu le rends général, ou tu prends une notion, tu le rends personnel.
Mm-hmm.
Mais le plus important pour que les gens saisissent, c'est que les gens écoutent. Et je pense que s'il y a un discuté, quand tu fais de la musique, dans un paysage actuel, il y a énormément de musique, mais que dans certaines plateformes où la musique est distribuée, c'est souvent le même type de musique. Moi, ce qu'on avait fait dans les liner, c'est qu'on avait dédié cet album à ceux qui écoutent. Parce que c'est vraiment ça qu'on cherche quand on est artiste. Un peintre qui veut exposer cherche à faire en sorte que ses œuvres sont vues. Et pour ceux qui font de la musique, après la première audience qui est nous-mêmes, on cherche à faire en sorte que les gens écoutent.
Alors, le groupe Lux, avec cet album Super 8, Super 8, donc, qui sort actuellement, c'est un groupe à entendre, c'est un groupe à écouter à la radio, il faut acheter l'album, mais on peut également aller vous voir sur scène.
Yeah, on peut prendre un verre à New York ou à Paris, on peut nous entendre. On va jouer... Bon,
enfin,
Sylvain, t'as pas beaucoup parlé.
Donc ouais, mieux qu'est-ce que tu veux que je...
Tu peux parler là.
Vas-y Sylvain, ouais, les prochaines dates peut-être.
Prochaines dates, on joue lundi prochain, donc le 23. On joue dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, qui est un lieu assez sympa. Et j'avais déjà eu l'occasion de...
School of Rock
ouais. Je l'avais déjà fait avec Jesus Volt il y a quelques années. Ouais.
Rappelons quand même que Julien Boisseau fait également partie de Jesus Volt, hein,
bassiste. Yes, Jesus Volt rock too.
L'excellent bassiste de Jesus.
C'est ça, voilà. Chewbacca, si tu nous écoutes.
Ouais.
Et donc, alors le 23 à la Sorbonne, donc dans Rive Gauche, hein, c'est ça?
Ouais.
Et puis ensuite, d'autres dates de prévues?
Ensuite, bah écoute, comme on s'est plutôt focalisé là depuis quelques mois sur la sortie de l'album et tout ce qu'il y a à faire à côté, des tonnes d'emails et d'envois. Et...
Qui file à le fait.
Donc, pour être très très honnête, on s'est pas trop penché sur l'aspect concert.
D'accord, mais ça va venir de toute façon.
Non, en fait, Marc, on espère de faire un concert de sortie, ou en tout cas, party, a release party. Je préfère dire release
fête.
Party. D'accord.
On va faire une fête.
We're gonna do a party, a release party. Mais on n'a pas encore décidé le lieu. Et c'est vrai que tu connais bien le sort des groupes en indé. Donc, on essaie de focaliser pour l'instant sur la promotion et la diffusion de l'album le plus possible et que pour pouvoir ensuite approcher les tourneurs. Parce qu'on ne peut pas tout faire.
Bah oui, en autoproduction, effectivement, quand on crée sa propre musique, voilà, il faut, à un moment donné, il faut se dire...
Il y a
des étapes.
Tu peux créer des choses tout seul, et encore. Moi, sans Sylvain, je suis juste une fille qui écrit beaucoup de mots sur les pages. Et il y a toujours, toujours besoin de... Et c'est quelqu'un qui travaillait dans la musique avant qui m'a dit « Tu verras qu'il y aura des satellites, les gens qui apparaissent, qui viennent, qui vont t'aider de passer d'une étape à une autre. » Et c'est vraiment comme ça.
Ouais.
On n'a pas parlé de tous les gens qui étaient impliqués.
Il y a des Kiss Kiss Bankers aussi qui ont permis... Il y a des gens qui ont permis la sortie de cet album sur Kiss Kiss Bank, hein, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire qu'on avait l'ambition de nous... avec les frais en studio, parce qu'en prenant la décision de travailler avec Peter Diamond comme producteur artistique et en prenant la décision de retourner à Studio Black Box où on avait fait le EP, ça engendre des frais importants, ce genre d'enregistrement, mais c'était le lieu qui convient mieux à la musique qu'on peut faire. Donc grâce à l'investissement d'un groupe de gens qui sont vraiment fidèles et très motivés, on a réussi à rendre tout ça possible. Et puis maintenant, quand on a produit cet album, on est fiers du résultat et on espère que ça touchera, comme, je sais pas comment tu dis, concentric circles, you know.
Je pense que oui, ça...
Voilà.
Ouais.
Pour que ça puisse... Pour qu'on puisse grandir. Parce que même si on est franco-américain, c'est vrai qu'on est actuellement à Paris, on te parle de Paris, mais notre musique ne l'est pas vraiment. Donc on espère toucher les gens et je suis très touchée moi-même par les gens qui acceptent de venir m'écouter avec ma voix un peu bizarre et leur chanter en anglais.
Ta voix chaleureuse en tout cas.
Au premier tour.
Ta voix chaleureuse et ta voix mélodieuse, Angela.
Je sais pas, mais l'important c'est que tu sais que c'est moi, non?
Ben oui, ben on peut pas, de toute façon on peut pas tricher, tu chantes comme tu parles.
Quand
tu
je
parles
dis
comme
bonjour, on sait que c'est moi déjà.
C'est clair. J'ai une toute dernière question pour Sylvain.
Ouais.
Est-ce que tu continues à collaborer avec Catherine Ringer au sein de Rita Mitsuko?
Alors non. Honnêtement, pas depuis quelques années, parce qu'elle a, elle a évolué aussi, elle a changé. Déjà, elle avait fait un break après la mort de Fred et la fin de la tournée. Après, elle a mis un peu de temps à sortir son premier album, et du coup, elle l'avait fait avec Raoul, son fils, qui est un excellent guitariste aussi. Et après, elle avait fait un truc tango argentin avec les mecs de Gotham Project, donc moi, j'avais pas vraiment de place là-dedans.
T'avais pas ta place là-dedans,
Et puis voilà, après, le temps passe, et moi, je suis passé à autre chose. Et,